dialogue avec les enfants sur la Bible, sur la façon de vivre de ce qu'on pourrait appeler les héros bibliques. L'idée, c'est bien sûr de créer un dialogue, c'est aussi d'être encouragé par les victoires, les succès et même les échecs des hommes et des femmes qui, comme nous, à différentes époques, ont été confrontés à des difficultés de toutes sortes, mais qui trouvent en Dieu leur aide et leur secours. L'idée, c'est aussi de donner une meilleure connaissance de l'arrière-plan de la Bible. La Bible, vous pouvez la lire sur une île déserte sans rien savoir, elle vous apportera toujours l'essentiel. Mais c'est sympa, si on peut avoir un petit peu l'arrière-plan historique et culturel et religieux, parce que ça nous aide à bien mieux comprendre les textes. Moi qui n'aimais pas l'histoire quand j'étais en sixième, je suis devenue fanat de l'histoire biblique parce que ça me permet de mieux comprendre certains textes qui, bien sûr, sont riches, mais sont tellement plus riches quand on connaît le contexte. Et ça nous parle tellement plus. Donc c'est ça l'idée, aider à mieux comprendre les textes, à mieux comprendre les réactions des personnages bibliques. Et justement, Arnaud a mis les pieds dans le plat ce matin, il vous a parlé d'un texte qui, justement, que j'allais évoquer. Et c'est sûr, si on connaît pas le contexte, c'est un texte révoltant. Bon, donc ça, on va traiter ça tout à l'heure, ça tombe bien, c'était dans mon message. En plus, ça permet de comprendre aussi les paroles de Dieu au peuple. Non pas que les paroles de Dieu soient conditionnelles, mais on les comprend mieux quand on connaît le contexte. Et puis les différents prophètes qui ont parlé de la part de Dieu. Rappelez-vous toujours qu'un prophète, c'est pas quelqu'un qui prédit l'avenir, c'est quelqu'un qui parle de la part de Dieu. Il prophétise, il parle de la part de Dieu. Donc c'est pas des diseurs de bonne aventure. Ensuite, l'idée, c'est de donner envie de lire la Bible, de découvrir les trésors d'encouragement et de foi, l'envie de rechercher aussi dans la Bible des modèles à notre vie. On a tous besoin de modèles. Et si on regarde autour de nous, il y a toujours quelque chose, oh là là, c'est pas évident de trouver des modèles. Et dans la Bible, on a des modèles. Quel que soit notre âge, notre situation, on trouve dans la Bible des repères, des valeurs fondamentales qui vont nous aider. Et c'est bien de commencer à faire ça en famille. C'est peut-être là qu'on a le plus besoin d'ailleurs. Alors comme chaque année, vous savez que je me répète, c'est le problème de tous les enseignants, on se répète beaucoup. Comme chaque année, je tiens à vous rappeler les textes de l'apôtre Paul, qui était un érudit et qui lui connaissait parfaitement l'Ancien Testament et le contexte et l'histoire. Il connaissait très très bien et voici ce qu'il dit à un jeune fils de chrétien, Timothée. Même sa grand-mère était déjà chrétienne. C'est déjà la troisième génération de chrétiens. Ils ont dû avoir leurs enfants assez jeunes. Et à Timothée, il dit ceci, c'est 2 Timothée 3,14. Quant à toi, demeure dans ce que tu as appris, dans ce dont tu as acquis la conviction. Tu sais de qui tu l'as appris. Depuis ta plus tendre enfance, tu connais les écrits sacrés. Ils peuvent te donner la sagesse en vue du salut par la foi qui est en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, redresser, éduquer dans la justice. Il ne s'agit pas de la justice, c'est pas juste, mais de la justice, la droiture. Hein, l'anglais le traduit beaucoup mieux que nous d'ailleurs. Afin que l'homme de Dieu soit à la hauteur, parfaitement équipé pour toute œuvre bonne. Voilà ce que dit Paul quant à l'importance d'enraciner notre foi dans la parole de Dieu. Dans Romains, il va dire ceci à l'église de Rome, Romains 15, verset 4. Tout ce qui a été écrit autrefois a été écrit pour notre instruction, afin que par la persévérance et par l'encouragement des Écritures, nous ayons l'espérance. Dans une époque où on a bien besoin d'espérance. À l'église de Corinthe, il écrit aussi ceci. Tout cela leur est arrivé, et il parle de l'Ancien Testament, à titre d'exemple, et a été écrit pour nous avertir. Donc voilà pourquoi on étudie les personnages de la Bible, parce que tout ce qui leur est arrivé est aussi pour nous un exemple et a été écrit pour nous avertir, comme l'explique très très bien l'apôtre Paul. Alors cette année, c'est en priant que j'ai reçu le personnage de Néhémie. C'était à la fin du TQP, hein, quand on a fait le torrent qui purifie. J'étais en train de prier et j'ai eu ce personnage de Néhémie, et certains textes qui m'ont parlé, je me suis dit, mais pourquoi pas le faire pour le mois de la famille? Sauf que c'est pas un livre très lu dans la Bible. Tout le monde le confond avec Jérémie, qui était un prophète, qui a parlé avant, bien avant Néhémie. C'est pas un livre très lu, et c'est dommage. Il n'est pas très connu, et pas d'ailleurs pas toujours très facile à trouver, on sait pas trop où il est. Pas souvent cité dans les églises, j'ai constaté ça, parce que je suis née dans une église, et les prédications sur Néhémie, on n'avait pas entendu beaucoup. Contrairement à Josué, qu'on a fait il y a quelques temps, ou Abraham, même Déborah, qu'on a fait l'année dernière, on en parle quand même assez souvent, mais alors, Néhémie. Alors, je me suis demandé pourquoi. Je pense que c'est en partie parce qu'on connaît pas très bien le contexte historique. C'est difficile de s'accrocher à cette histoire si on connaît pas ce qui s'est passé avant. Alors, bien sûr, vous savez, vous me connaissez, vous n'allez pas y échapper. Comment se situe Néhémie dans la chronologie de la Bible? On va refaire un petit peu de chronologie. Je suis désolée. Alors, j'espère que ça marche, mais oui. Donc, on fait un petit rappel de la Genèse à Néhémie. Ça va nous aider à comprendre ce qui se passe. Encore une fois, d'accord. Il veut pas. Si. Bon, c'est pas grave, c'est bon. Donc, la Genèse, on va aller assez vite, parce que c'est des textes que vous connaissez très bien. Premier livre de la Bible parle de la création, Adam et Ève. Ensuite, on a l'histoire bien connue de Noé, que vous racontez, j'imagine, à vos enfants. Puis on est dans la période la plus étudiée peut-être. Nous, on a déjà travaillé le personnage de Jacob, mais ce qu'on appelle les patriarches. Alors, Abraham, Isaac, Jacob étant les patriarches, Joseph, fils de Jacob, étant celui qui a fait rentrer le peuple en Égypte. Donc, Joseph. Il passe beaucoup de temps en Égypte, environ 400 ans, et c'est l'Exode, le livre de l'Exode, qui va raconter la sortie d'Égypte avec Moïse. Vous connaissez tous ces histoires, donc on va passer très vite. C'est pour vous donner une petite idée. Ensuite, c'est Josué qui travaille avec Moïse et qui va, à la mort de Moïse, conduire le peuple à Canaan, l'actuel Israël, géographiquement. Hein, et le peuple va s'installer à Canaan. Ensuite, on va rentrer à la période des juges. Vous pourriez penser que c'est tout de suite les rois, mais non, ils ont d'abord des juges. Et l'année dernière, on a étudié Déborah, une femme juge. Et après, on va dire que la Bible est un livre misogyne. Vous voyez que c'est pas vrai. Une femme juge. On a Ruth, on a Esther et on a Déborah qui a dirigé le peuple. La Bible n'est pas misogyne. Puis, vous savez qu'après cette période des juges, ils ont demandé un roi. Samuel, qui était le dernier juge et qui était aussi prophète, a tout fait pour que ça n'arrive pas. Mais non, vous savez pas, il va prendre vos filles, il va prendre vos hommes pour en faire des soldats, etc. Il a essayé de les dissuader, il n'y a rien eu à faire. Il voulait faire comme tout le monde. Ça, c'est la tendance de tous les peuples, hein, de tous les humains, faire comme tout le monde. C'est difficile de remonter à contre-courant. Je dis toujours, il n'y a que les poissons vivants qui remontent à contre-courant. Les poissons crevés se laissent aller. Donc, soyons des poissons vivants. Donc, ça a eu le roi 1050, ça vous donne des dates, hein, en même temps. David était roi après en 1011, toujours roi par Samuel, il a dû vivre longtemps, je n'ai pas calculé. Et puis on arrive à Salomon, donc c'est les trois premiers grands rois d'Israël, tous mes élèves en cinquième doivent les savoir par cœur. Saül, David et Salomon, ça vous donne une idée, autour de 1000, gardez au moins cette date présente à l'esprit. Salomon va être celui qui va construire le temple. David aurait bien voulu, mais il avait trop fait de guerre. Dieu lui a conseillé de laisser ça à son fils. Et c'est donc Salomon qui a construit le temple de 966 à 959. Alors peut-être il y en a qui vont être étonnés, mais la Bible n'est pas un livre d'histoire, mais elle dit des choses tout à fait historiques. Et plus le temps passe, je lisais justement en travaillant, plus on s'aperçoit que des textes de la Bible qu'on a critiqués comme étant fantaisistes, on s'aperçoit que ils avaient raison, parce qu'on retrouve un manuscrit, parce qu'on retrouve des tablettes, et on fait allusion à ce personnage. On croyait que c'était un personnage légendaire. Eh ben non, il existait. Il existait parce qu'on l'a trouvé dans un autre texte. On a besoin de ça parfois. Donc, la construction du temple, elle est datée, hein, il n'y a pas de souci. Par contre, après Salomon, il y a un premier énorme problème pour le peuple de Dieu. Il se divise. parce que le fils de Salomon était pas correct, hein, je vais pas donner tous les détails, mais il s'est pas bien comporté avec le peuple s'est divisé en deux. Et évidemment, ça l'a considérablement affaibli. Israël au nord, et au sud, Juda et Benjamin. Donc, deux tribus, puis 10 en haut. Alors, les tribus les plus fidèles ont quand même été Juda et Benjamin, mais Israël a eu des rois fidèles de temps en temps. De 930 à 722, vous le lisez peut-être pas très bien, donc on va avoir des rois qui se succèdent. Plus souvent des mauvais que des bons, d'ailleurs. Et, malheureusement, la puissance assyrienne, qui était donc à l'est d'Israël et un peu au nord, a commencé à devenir de plus en plus puissante. Ninive, ça vous dit quelque chose, Ninive, la capitale? C'était des gens d'une cruauté inimaginable. Je peux même pas tout raconter à mes cinquièmes, ils veulent savoir, bien sûr, mais j'évite parce que vraiment c'est ignoble. La Bible est très sobre, hein, dans ce qu'elle dit. Mais les textes historiques qu'on a sur les Ninivites, sur les Assyriens, c'était des gens qui, ils aimaient faire la guerre, mais ils aimaient surtout torturer. C'est des gens d'une cruauté inimaginable. On ne s'imagine pas comment ces gens se comportaient. Et c'est important de s'en rappeler quand on lit la Bible. Hein. Évidemment, en 930, la domination syrienne s'est faite sentir sur Israël d'abord, et la ville, la capitale, Samarie, est tombée. Voilà. 722. Ça vous donne une petite idée. Il me manque... Israël, je sais pas où est-ce qu'il est passé, Jérusalem, voilà. Par contre, en Israël, c'est en 587 seulement qu'ils sont tombés. Est-ce que c'était dû parce qu'ils avaient des meilleurs rois? Certainement. 587, Jérusalem est détruite. Le temple est saccagé, tous les trésors du temple sont emmenés, y compris l'arche. Et c'est la catastrophe. La vaisselle d'or du temple, tout emmené. Enfin, imaginez pour ces gens ce que ça a été. De tout perdre, et leur centre religieux aussi. Et puis, on va avoir trois vagues de déportation, et c'est ça qui est important à comprendre, trois vagues de déportation sous Nebuchadnezzar. Vous connaissez l'histoire de Daniel, qui s'est passée sous Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar n'est pas une figure légendaire, hein, il y a d'autres textes qui en parlent, parce que malheureusement, pour les gens, la Bible n'est pas suffisamment fiable à elle toute seule. Mais Nebuchadnezzar a effectivement existé, Nabucodonosor aussi, suivant les traductions. On a l'histoire de Daniel qui se situe à cette époque. Donc, il y a trois vagues de déportation par les Babyloniens. Voilà, je pense que c'est tout. Ah, il faut que je continue. Voilà. Et puis les Babyloniens, on a ce texte dans Daniel. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand il y a l'écriture sur le mur, c'est parfaitement historique. Bien sûr, les historiens vous parlent pas d'écriture sur le mur, mais ils parlent de ce roi qui, c'était en fait son dernier banquet, parce que la nuit même, la Bible dit, les Perses sont arrivés. Oh, les Perses, ils étaient malins. La ville de Babylone n'était pas prenable. C'était vraiment une forteresse. C'était imprenable. Mais il y avait une rivière. Et avec l'aide de quelques traîtres, l'armée perse est rentrée par la rivière. Et voilà. Et l'armée perse a pris Babylone en une nuit. Alors, j'allais dire c'était une bénédiction, parce que les Perses étaient quand même beaucoup plus civilisés. Alors, évidemment, pour nous, c'était encore vraiment des barbares et des gens. Mais comparativement aux Assyriens et aux Babyloniens, ils étaient quand même un petit peu plus tolérants, et on va le voir dans la suite de l'histoire. Et voilà, ce sont les Perses qui vont prendre le pouvoir en 539, et les déportés, donc qui habitent là depuis la déportation assyrienne, vont se retrouver sous la domination perse, un petit peu mieux à mon avis, et il va se passer quelque chose d'incroyable. Les prophètes l'avaient annoncé, ils avaient dit « vous serez déportés 70 ans ». Et ce qui est incroyable, c'est que ça s'est réalisé tel que, au bout de 70 ans, ils ont pu rentrer chez eux. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu un roi perse, Cyrus, qui était très tolérant et qui avait le souci, alors ça c'est les textes, hors de la Bible qui dit ça, la Bible est plus ciblée sur le fait qu'il croyait vraiment en Dieu, en l'éternel Dieu d'Israël. Mais il dit qu'il avait le souci de pas déplaire au Dieu des autres peuples qu'il avait déportés. Donc il avait envie de renvoyer les gens qui voulaient rentrer, vous pouvez rentrer chez vous, et ramener vos objets religieux, reconstruisez votre temple. C'était fou ça, on n'avait jamais vu ça. Et pourtant, Jérémie l'avait prophétisé. Ça, c'est ça qui est quand même fantastique. ça avait été annoncé. Penser qu'un peuple puisse renvoyer ses déportés et en leur redonnant leur or, il y en avait énormément dans le temple, hein, les plats, etc. Vous lisez ça dans la Bible. Il leur a tout redonné et les a renvoyés chez eux. S'ils voulaient, ils pouvaient rentrer chez eux. Et il y a eu donc un premier retour d'exilés avec Zorobabel. Alors, pour ceux qui lisent beaucoup leur Bible, vous avez dû tomber sur des tas de textes où ils parlent de Zorobabel, etc. Et je me souviens, pendant des années, je me suis dit, mais qui c'est celui-là? Zorobabel. Alors, c'était un noble, il était de la famille de royale, et il est devenu, grâce à Cyrus, gouverneur. Il était accompagné de Josué, c'est pas celui de Moïse, hein, bien sûr. Il était accompagné de Josué, qui était grand prêtre. Et ils sont retournés pour reconstruire d'abord le temple. Leur premier souci, c'était de reconstruire le temple. Et ils étaient accompagnés de deux prophètes qu'on connaît bien, Agée et Zacharie. Alors maintenant, quand vous lisez Agée et Zacharie, si vous connaissez cette histoire, ça va être beaucoup plus clair. On comprend beaucoup mieux les choses. Le texte des prophéties résonne beaucoup mieux parce qu'ils ont accompagné la reconstruction après l'exil. Donc, quand vous relisez les prophètes Agée et Zacharie, vous allez voir, tout devient clair. C'est pas si compliqué que ça, en fin de compte. On va avoir un deuxième retour avec Esdras. Alors, Esdras était, il en a parlé tout à l'heure, Arnaud, Esdras était un scribe qui connaissait les Écritures, donc c'était l'Ancien Testament pour nous, hein, enfin une partie, surtout la Torah, les premiers livres, pratiquement sur le bout des doigts. C'était un homme qui connaissait très très bien la parole et qui a fait tous ses efforts pour ramener les exilés qui revenaient à la parole de Dieu. Et est-ce que vous vous êtes jamais posé la question, j'ai posé la question à André dans la voiture, il a fini par trouver, mais bon. Non, moi, vraiment, j'aurais pas deviné. Pourquoi est-ce que ce peuple d'Israël, pour ceux qui connaissent bien l'Ancien Testament, qui était idolâtre, qui pour un oui, pour un non, allait sacrifier ses enfants aux idoles, etc., comment ça se fait que quand Jésus arrive, on parle plus d'idolâtrie? On parle plus d'idolâtrie. Ouais, peut-être d'autres genres d'idolâtrie, mais enfin, l'idolâtrie, genre sacrifice aux idoles, etc., orgie devant les différents Baals, Astarté, tout ça, c'est fini. Parce qu'ils auraient pu faire la même chose avec les dieux romains et les dieux grecs, hein. Vous avez ce qu'il fallait, hein, pas de souci. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, une des réponses, c'est que Esdras et notre personnage Néhémie ont tellement ramené le peuple à l'observation de la parole, ont multiplié, j'imagine, aussi les textes, et fait apprendre les textes par cœur, que les gens se sont attachés à la parole de Dieu. À tel point que, évidemment, étant attachés à la parole, ils ont essayé de l'observer, et ils sont même, malheureusement, quand Jésus arrive, tombés dans l'excès contraire, la loi pour la loi. Et c'était aussi un problème, ça. Vous voyez, l'être humain, il est comme ça, hein. Il est dans un excès, et puis, il passe dans l'autre. Et un des soucis d'un chrétien, justement, c'est de rester dans l'équilibre. Et c'est pas facile. C'est pas facile. Vous avez déjà vu des équilibristes sur des fils? Est-ce qu'ils marchent vraiment comme ça, tout droit? Hein, c'est un petit coup à droite, un petit coup à gauche, et ils arrivent jusqu'au bout de leur fil, mais c'est jamais parfaitement droit, et nous, chrétiens, c'est un peu la même chose, hein. Parfois, on va avoir un petit excès d'un côté, on corrige, et oh, manque de chance, on a un petit excès de l'autre côté. Faut l'accepter, je crois que c'est la vie. Mais il faut toujours chercher l'équilibre dans nos vies, que ce soit nos vies personnelles, nos vies de famille, nos vies d'église. Chercher l'équilibre. Alors, André et moi, c'est un de nos thèmes. C'est curieux d'ailleurs, parce qu'il y a des prophètes qui l'ont dit sans nous connaître. Mais c'est vrai que c'est une recherche d'équilibre. Alors, c'est pas qu'on y arrive, hélas, hein. C'est un petit coup à droite, un petit coup à gauche. Mais c'est important qu'on recherche cet équilibre dans la parole de Dieu. Parce que vous voyez, le peuple qui est allé après toutes les idoles, qui a fait les pires choses, voilà maintenant qu'il est sur la parole de Dieu. Oh, c'est merveilleux. Et puis, on voit les pharisiens, hein, qui coupent les cheveux en quatre et qui cherchent des ennuis même à Jésus. Dommage. C'était une petite aparté. Donc, on a revu ça. Alors, à propos de ce qu'a lu... après Esdras, on va terminer. Esdras retourne à Jérusalem et après, en 444, c'est Néhémie qui va retourner à Jérusalem. Et lui, ça c'est merveilleux, il y va pour reconstruire les murs. Alors, Jackie Ford a fait une étude fantastique sur Néhémie que je suis obligée de vous le dire déjà ce matin, même si ça va venir un peu plus tard. C'est que Néhémie a eu à cœur de reconstruire les murs de la ville. Le temple, c'était bien. La relation avec Dieu était rétablie. L'adoration à Dieu était rétablie. Super. Mais les murs de la ville étaient détruits. Les portes étaient brûlées. On va le voir tout à l'heure. Et il a eu à cœur de rétablir les murs. Et c'est un très beau symbole. On cherche pas des symboles à tous les coins, mais là, il crève les yeux quand même. De ce que Dieu fait dans nos vies. Ça suffit pas toujours de rétablir notre relation avec Dieu. Dieu doit reconstruire aussi nos murailles, notre âme, nos émotions, notre volonté, nos pensées. Ça aussi, ça a besoin d'être reconstruit. Alors bien sûr, on peut vivre avec seulement le temple reconstruit, mais ça fait des dégâts. Et si on veut, il faut que notre âme soit reconstruite par le Seigneur. Et vous savez, qu'est-ce qui reconstruit notre âme? C'est le Saint-Esprit. Et vous savez ce que ça veut dire, Néhémie? La signification du nom Néhémie, le consolateur. L'Esprit, le consolateur. Le symbole est fort, hein. Et c'est celui qui va reconstruire les murs. Reconstruire les murs de la ville pour qu'elle soit sûre, pour qu'il n'y ait pas n'importe quoi qui rentre dedans. Et n'importe qui vienne voler les biens et peut-être même attaquer le temple. Néhémie va être l'image vraiment du Saint-Esprit qui nous reconstruit. Et je pensais ce matin, en arrivant à l'église, je me disais, mais mince, chacun ce matin a dû faire des sacrifices, a dû faire des choix pour dire, ben, je fais ça plus tard, je vais aller adorer le Seigneur. Et je me dis, oh, le Seigneur doit être content quand même de chacun de vous qui êtes venu ce matin. C'est dire, waouh, ils m'ont mis en priorité. Ça a l'air de rien, on n'y pense pas parfois, on trouve normal, tout le monde vit à l'église, ben voyons. Mais le Seigneur est sensible au choix que vous avez fait en venant ce matin. Je voulais vous le dire, parce que je sais que pour certains, je pensais à Alexandra ce matin, que j'ai vu arriver avec ses deux bébés, je dis, waouh, pas facile. Et le Seigneur est sensible au fait qu'on l'ait mis en priorité. Je voulais vous le dire, parce que ça m'a touchée ce matin, je dis, mais il est sensible, vous avez fait un choix, et il vous bénit pour ce choix. Et Dieu est quelqu'un qui veut reconstruire nos vies. Et c'est pour ça que l'histoire de Néhémie, c'est l'histoire de la reconstruction. On vient de faire le torrent qui purifie. Si vous savez pas ce que c'est, demandez à ceux qui l'ont fait. Ça nous a fait du bien parce que c'est un travail de reconstruction que Dieu fait dans nos vies. Et c'est un peu ce qu'on va travailler avec Néhémie. Je crois que ça tombe à pic finalement, après le torrent qui purifie. Néhémie, celui qui va consoler, réconforter, reconstruire. Et on va voir comment il va s'y prendre et les difficultés qu'il va rencontrer. Alors, à propos de ce que disait Arnaud, on va se trouver ce texte dans Néhémie, mais on va le trouver aussi dans Esdras. Chasser les femmes païennes. Mais quelle horreur. Avec leurs enfants. Allez, tu balais. Alors, on va lire dans Ésaïe 57. Et là, si vous pouvez le prendre, c'est bien. Si on regarde sans connaître l'histoire, si on applique ça à notre époque, à nous, c'est une catastrophe. Enfin, chasser les femmes païennes, vous imaginez. C'est choquant, quoi. Ésaïe 57, on va regarder un petit peu. Il faut que vous soyez conscients du contexte. D'autant plus que, à la période des juges, un certain prophète, qui n'était pas très clair, s'appelait Balaam, avait été convoqué pour maudire le peuple de Dieu. Et comme il n'y était pas arrivé, avant de partir, il avait donné un conseil à Balak, le roi, et lui avait dit, écoute, si tu veux avoir le dessus sur ce peuple, envoie les filles faire des fêtes chez eux, dans leur territoire, qui se marient avec eux, et vous aurez le dessus. C'est pas faux. Alors, on va voir Ésaïe 57. Il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Alors, voilà un petit peu de quoi il s'agissait, l'idolâtrie des femmes, de ces femmes païennes. C'était pas simplement, elles allaient porter quelques offrandes à un dieu une fois par mois. Alors, mes voix approchées ici, fils de la femme qui cherche des présages, descendance adultère qui se prostitue, de qui vous moquez-vous? Contre qui ouvrez-vous grand la bouche et tirez-vous la langue? N'êtes-vous pas des enfants révoltés? Il s'adresse aux enfants d'Israël qui s'était compromis avec les femmes païennes. Une génération de mensonges s'enflammant sous les térébintes, sous tout arbre verdoyant, égorgeant les enfants, écoutez bien ça, hein, égorgeant les enfants dans les ouèdes et sous les fentes des rochers. L'adoration de ces idoles supposait ça. Comment vous pouvez imaginer que Dieu accepte ça? C'était pas le problème, elles sont pas juives, alors il faut les jeter dehors. C'est qu'elles avaient des rites qui était coton, franchement. Et vous trouvez pas ça que dans la Bible, hein. Cherchez dans l'histoire, vous allez voir. Comment voulez-vous que Dieu, l'éternel Dieu, qui aime le plus petit, qui pense toujours à la veuve et l'orphelin, etc., accepte ça? Comment voulez-vous que ne soit pas révolté à l'idée de ces femmes qui amenaient ces cultes-là où il fallait égorger des enfants? Alors, sans parler du culte de Moloch, où on les jetait vivants dans le feu. Comment voulez-vous que Dieu accepte ça? C'est pas possible. Et si vous continuez le chapitre, vous allez voir, tu montes pour offrir des sacrifices, tu mets tes évocations, tu mets ton évocation, donc il fallait écrire des textes de malédiction, etc. Tout ce chapitre va parler de ça. On a la même chose. Alors, Ésaïe a écrit entre 742 et 700 avant Jésus-Christ, donc c'était bien avant Néhémie. Jérémie, c'est 621-580, voyons, on se rapproche de Néhémie. Jérémie 19, 3, on va retrouver aussi ce genre de texte. Donc, voyez, le problème, c'était pas les femmes païennes, c'était bien pire que ça. 19, 3, j'espère que j'ai... Voilà. Car ils m'ont abandonné. Ils ont rendu ce lieu méconnaissable. Ils ont offert de l'encens à d'autres dieux qui ne connaissaient ni eux, ni leur père, ni les rois de Juda. Ils ont rempli ce lieu du sang des innocents. Voilà le problème des femmes païennes. Ils ont bâti des hauts lieux pour Baal, pour jeter au feu leur fils en holocauste à Baal, chose que je n'avais pas ordonnée, dont je n'avais pas parlé, et qui ne m'était même pas venue au cœur. C'est pourquoi viendra le jour où, etc. Et là, suit tout un tas de menaces et de malédictions. Mais mettez-vous à la place de Dieu 5 minutes, je sais qu'on peut pas, mais quand même. Vous voyez, c'était, je vous raconte pas d'histoire, et puis bon, j'ai vérifié dans d'autres livres d'histoire, c'était une coutume des femmes païennes. Alors, c'était pour s'assurer la prospérité, pour que les champs rapportent bien, pour que les animaux soient pas malades, pour s'assurer la bénédiction de Baal. Bon. C'était ça le problème. Alors évidemment, à l'époque, c'était tellement évident qu'ils ne l'écrivaient pas. On est obligé de le rechercher dans les prophètes. Mais quand Esdras a dit, mais renvoyez ces femmes païennes, il était là le problème. D'ailleurs, sinon il n'y aurait pas le livre de Ruth, qui a accepté d'adorer le Dieu vivant et vrai. Elle a été accueillie, bénie, aimée. On lui a même laissé un livre entier dans la Bible. Et le canon juif était sévère, hein, quand ils ont sélectionné les livres. Donc, vous voyez qu'il n'y avait rien, il n'y avait pas de problème de race. Mais il y avait un problème d'idolâtrie sadique, enfin, terrible. Et il faut toujours avoir ça à l'esprit. Alors, il y a un autre texte, c'est Ézéchiel 16. On peut le prendre. Je veux bien marquer les choses parce que sinon, on comprend très mal ces textes de renvoi. On se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? La Bible, Dieu dit qu'il hait le divorce. Et puis, voilà, 16:8, Ézéchiel, on va retrouver à peu près la même chose. Ah oui, c'est à propos d'Israël. Voilà, 16:16, en fait. Tu as prodigué ta prostitution à chaque passant. Tu as pris de tes vêtements, tu t'es fait des hauts lieux bariolés, tu t'y es prostitué. Rien de semblable n'était arrivé avant. Et il décrit un peu, sous la forme d'une femme prostituée, comment Israël s'est comporté. Et verset 20, tu as pris tes fils et tes filles que tu m'avais donnés et tu leur as sacrifié pour qu'ils les dévorent. Tu as immolé tes fils et tu leur as livré en les faisant passer par le feu. Avec toutes tes abominations et ta prostitution, tu ne t'es pas souvenu des jours de ta jeunesse, etc. Vous imaginez. Donc, ça fait plusieurs textes. Là, parfois, on dit qu'il faut jamais prendre un texte isolé. C'est pas un texte isolé. Donc, vous comprenez maintenant, quand il disait renvoyer les femmes païennes. Je suis sûre que celles qui, comme Ruth, ont voulu adorer le Seigneur et n'avaient pas ces rites-là, ils n'ont pas eu besoin de les renvoyer. Mais vous imaginez. Vous pouvez tolérer ça? Comment ils pouvaient tolérer des choses pareilles? C'est incompréhensible. Voilà, je voulais mettre ça au clair, parce qu'on va retrouver ce genre de texte dans Néhémie, et comme Arnaud l'a fait, en a parlé ce matin, on en parle maintenant. Donc, on a fait l'histoire. Alors, pourquoi je vous fais toute cette histoire? Pourquoi est-ce que je vous donne le contexte? Parce que je pense qu'on peut tirer aussi des choses pour nous. D'abord que Dieu est maître de l'histoire. Et s'il est maître de l'histoire d'un peuple, il est maître de la nôtre aussi. Il tient le monde dans sa main. On le chante, mais on réalise pas toujours ce que ça veut dire. Avec le recul, hein, quand on voit comme nous là que les grandes lignes, on voit la main de Dieu qui maintient son alliance avec le peuple. Et pourtant, c'est un peuple difficile. Et c'est ça qui est merveilleux avec Dieu. Il maintient son alliance. Quoi qu'on fasse, lui maintient son alliance. Vous vous souvenez de ce texte avec Abraham, où on séparait les animaux en deux, et le rite voulait qu'on passe entre deux, en disant qu'il me soit fait comme cet animal, enfin c'est ce que ça signifiait, si je romps l'alliance. C'est pas Abraham qui est passé, c'est Dieu, parce que Dieu savait très bien. Là, le feu de Dieu est passé entre les deux morceaux de l'animal. Dieu savait très bien que l'homme ne pourrait pas tenir sa promesse. Mais lui, il la tient. Et il la tient encore aujourd'hui. Et c'est pour ça, quoi qu'on ait fait dans notre vie, faut toujours se dire, Dieu est fidèle. Il pardonne. Tout ce qu'il demande de nous, c'est la repentance. Il tient ses promesses. On voit ça aussi dans les promesses de châtiment, hein, qu'on a lu là dans les prophètes. Vous avez jeté vos enfants en feu, il va vous arriver ça et ça. Il tient ses promesses. Malheureusement, les promesses de châtiment, et elles sont aussi transmises, hein. Avec toutes sortes de mises en garde, d'appels à revenir à l'Éternel. Il y a ce verset que j'aime beaucoup qui dit « Chaque jour, je tends les mains vers ce peuple infidèle. » Le peuple va être vaincu, exilé, soumis à des puissances idolâtres, puisqu'il voulait tant sa coquiner avec ces puissances idolâtres. Eh bien, il va être en exil avec eux. Mais d'un autre sens, Dieu tient aussi ses promesses de pardon et de retour. Ça, c'est fantastique. Il a donné une bonne fessée au peuple, ça lui a fait mal. Mais derrière, les promesses de pardon sont toujours là. Les promesses de retour après 70 ans, humainement impossible. Hein, mais Cyrus le Perse va être l'instrument dans la main de Dieu pour accomplir cette promesse. Dieu reste fidèle, même si nous sommes infidèles. Dieu peut nous corriger, mais il ne nous rejette pas. Et souvent, malheureusement, je vois ça chez des gens qui me disent « Oh, j'ai fait trop de bêtises, c'est rien. » Quelqu'un de la commune d'à côté de chez moi, je sais que ses parents étaient aux assemblées de Dieu, on les a bien connus, et il se trouve qu'il est maire d'un village, et je lui ai parlé du Seigneur en me disant « Mais faut prier, il rencontrait une difficulté majeure dans sa commune, et je dis « Mais priez, priez, vos parents, ils savaient ce que c'est que prier, etc. » Il me dit « Ah, c'est trop tard, je suis allé trop loin. » Pourquoi croire ça? La parole dit jamais qu'on est allé trop loin. Jamais. Il reste fidèle, il ne nous rejette pas. Et c'est pas parce qu'on a traversé un moment de correction qu'il nous rejette. Et on le voit dans le peuple, après 70 ans, il tient sa promesse. Dieu ne nous rejette pas, il reste fidèle à son alliance. Quoi que ce soit qu'on ait fait, à partir du moment où on demande pardon au Seigneur, il ne nous rejette pas. Ça, c'est merveilleux. Et Dieu aussi redonne l'espérance. Pendant cette période d'exil, faut voir le nombre de prophètes qui ont parlé, qui ont encouragé, qui ont consolé, qui ont réconforté, qui ont prévenu. Ils étaient entourés de gens. Et ça, c'est merveilleux. Dieu nous laisse pas seuls. Et enfin, Dieu est patient. Il est lent à la colère et riche en bonté. Entre les premières prophéties qui ont dit, si vous continuez à agir comme ça, vous allez quitter ce bon pays. Et puis, l'accomplissement réel, il s'est passé des années. Je crois autour de 150 à 200 ans. Dieu est patient. Il est lent à la colère et riche en bonté. Et il nous prévient longtemps avant les problèmes. Il prévient longtemps avant que l'envahisseur arrive. Il y avait des guerres et des bruits de guerre en Assyrie. Il a attendu. Ils étaient au courant, mais ils n'ont pas bougé. Donc, je me dis parfois, Seigneur, aide-nous, quand tu nous préviens de quelque chose, à réagir vite. Parce que moi, j'aime pas les ennuis. Réagissons vite pour éviter quand même ces périodes difficiles. Alors, les livres d'Esdras et de Néhémie constituaient un seul livre. Je ne sais plus qui les a séparés. Mais en fait, ce sont les mémoires de deux personnages marquants qui ont mis en place des réformes politiques, sociales et religieuses. C'est pour ça qu'on va trouver dans le livre de Néhémie des morceaux, des fragments complètement autobiographiques. Et j'aime tellement Néhémie qui est toujours là à implorer la grâce de Dieu. On sent que oh là là, il en a terriblement besoin. Donc la première période de reconstruction, en 538, l'empereur perse Cyrus autorise la reconstruction du temple, qui s'achève après un temps d'interruption, et en 515, sous la direction du grand prêtre Josué et du gouverneur Zorobabel, encouragé par les prophètes Agé et Zacharie, ça on l'a vu. La deuxième période correspond à une nouvelle étape de restauration, ça va être la réforme religieuse. Esdras, le scribe, venait de Babylone. Son nom signifie « secours ». Il est de la lignée d'Aaron, donc c'est vraiment une lignée de prêtres. Il connaissait très bien la loi de Moïse, ça je l'ai dit. Et il est chargé par le roi de Perse, Artaxerxès, d'aller à Jérusalem faire une enquête sur les conditions de vie de la communauté juive et exhorter les juifs, c'est le roi perse qui le dit, hein, à observer la parole de Dieu. Incroyable, mais vrai. Comme Jésus disait parfois, si vous ne m'honorez pas, les pierres crieront. Ben, c'est un peu ça, je trouve, quand c'est obligé que ce soit un roi perse païen qui exhorte les juifs à adorer leur Dieu. Et on a retrouvé, alors là, c'est pas que dans la Bible, on a des manuscrits. Je sais pas si c'est ceux d'Éléphantine, je sais plus, parce que j'ai lu tellement de trucs historiques ces derniers temps, qui relisent ce texte. On retrouve ce texte dedans, où il dit, allez adorer votre Dieu. La troisième période, ça va être la reconstruction de l'enceinte fortifiée, la muraille autour de Jérusalem, avec Néhémie, et on va prendre le début de Néhémie. J'espère que je n'ai pas trop assommé avec l'histoire, mais ça va vous aider à comprendre un petit peu le contexte. Donc, Néhémie 1, parole de Néhémie, fils de Hakalia. Au mois de Kislev, je crois que c'est décembre, la 20e année, comme j'étais à Suse, la citadelle, c'était la capitale, l'hiver, les empereurs, les rois perses allaient dans cette ville de Suse. Hanani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les interrogeais au sujet des Judéens rescapés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et du déshonneur. Il y a des brèches dans la muraille de Jérusalem et ses portes ont été détruites par le feu. On est en 445 avant Jésus-Christ et Néhémie est au service du roi de Perse. Il est donc à 400 km à l'est de Babylone et à 1250 km de Jérusalem. Alors, avec les moyens de transport de l'époque, ça faisait, j'ai compté, au moins 4 mois pour rentrer à Jérusalem. Il fallait marcher vite, quand même. Donc, c'est quand même effrayant. Comment est-ce qu'il reste aussi attaché à Jérusalem? Néhémie, lui, il est en sécurité. C'est l'homme de confiance du roi. C'est lui qui goûte le vin pour éviter les empoisonnements. Il est toujours aux côtés du roi. C'était un rôle très important à l'époque. C'était pas simplement un serviteur. Ben, il avait la vie du roi entre ses mains. Et Néhémie, c'est ce que je me suis dit, il aurait pu complètement oublier Jérusalem, son pays, ses frères. D'autant plus que si on réfléchit un petit peu, ce sont ses arrières ou arrière-arrière-grands-parents qui ont été déportés. C'était un Perse. Enfin, ça a été un Babylonien, un Assyrien, un Babylonien, puis un Perse. Bon, c'est curieux qu'il ait gardé son identité. Il aurait pu être totalement assimilé à cause de son travail, par l'oubli aussi de son passé familial, et aussi par la résignation. Bon, qu'est-ce que vous voulez, hein, Inch'Allah, on est comme ça, on est comme ça. Il y avait, avant l'heure, il y avait en Perse des milliers de déportés de toute origine. Il y avait des gens qui venaient de tous les pays. Et tous ceux qui étaient au palais avaient été formés, vous vous rappelez de Daniel, ils avaient été même formatés. On changeait leur nom, on les obligeait à parler la langue du pays, on leur apprenait l'astronomie, les mathématiques, etc. C'était un autre monde. Il était complètement formaté à la culture perse. Et ils étaient des milliers dans le même cas. Il aurait pu dire, bah oui, moi je suis comme tout le monde. Les Perses étaient plus tolérants que les Assyriens ou les Babyloniens, mais ils n'étaient pas très regardants sur les origines ethniques de leurs sujets, donc ça les dérangeait pas. Et il aurait pu dire, bah je suis là, moi, et ma famille, depuis près de 150 ans, alors tant pis, hein, peu importe ce qui se passe à Jérusalem. Ce qui arrive à ceux qui sont retournés, bon, bah mes parents, ils ont pas choisi de rentrer. Ils auraient pu, hein. Ça faisait un bout quand même qu'ils étaient rentrés, les autres. Ça faisait plus de 70 ans. Peu importe ce qui arrive à ceux qui sont retournés, mes parents n'ont pas choisi de rentrer, ou ils n'ont pas pu. On est toujours sous la punition de Dieu. Il aurait pu réagir comme ça. Il aurait pu rester sous la culpabilité. Il faut payer le prix de nos péchés. Mais il y a trop de gens qui restent sous cette culpabilité. Ben voilà, j'ai trahi Dieu, j'ai fait des bêtises, ben voilà, faut que j'y reste. On paye le prix des péchés de nos ancêtres. Non, moi je trouve que l'attitude de Néhémie est vraiment surprenante, surtout 150 ans après quand même. Visiblement d'abord, et là j'insiste là-dessus, ses parents lui ont transmis fidèlement l'histoire de son peuple. Comment est-ce qu'il aurait pu garder son identité en Dieu, vu son travail, hein, et vu le formatage qu'il avait subi? Comment est-ce qu'il aurait pu garder cette foi, ça se voit dans sa prière après, comment il aurait pu si bien connaître les textes si ses parents ne lui avaient pas transmis? D'où l'importance de la transmission. On a longtemps cru, malheureusement, dans nos pays occidentaux, que ça se faisait automatiquement. On est dans un pays chrétien, il y avait l'école, il y avait l'église, il y avait l'école du dimanche. Non, la vraie transmission, la transmission de base, elle se fait à la maison. Et pas seulement par la parole, mais par le comportement. Je dis pas la perfection, mais le comportement. Comportement, c'est dire, j'ai fait une erreur. Je suis désolée. Savoir reconnaître ses erreurs, ça fait aussi partie de la transmission. Mais ça transmet aussi la grâce et la bénédiction de Dieu. Donc là, j'insiste là-dessus, ça fait 5 ou 6 générations qui sont plongées dans un monde très différent. Un monde assez dur, assez cruel. Néhémie est fidèle à la foi de ses pères. Il connaît la loi de Moïse et il est conscient de l'alliance. On le voit dans sa prière, il est conscient de l'alliance que Dieu a gardée. Waouh ! Après 150 ans. Alors moi, je me pose la question, est-ce que dans 150 ans, mes arrière-arrière-petits-enfants resteront fidèles ? Il faut se poser la question. Il faut tout faire pour que ce soit le cas. Il faut prier pour que la foi ne quitte pas nos familles. Que nos enfants restent sous l'alliance, sous la bénédiction du Seigneur. C'est important. C'est comme ça que la Bible a pu nous être transmise. C'est parce qu'il y a des gens qui ont transmis leur foi comme les parents et les grands-parents de Néhémie. Notre situation dans un monde complètement déchristianisé dépend de cette transmission. Non pas de la transmission des rites et des coutumes, des devoirs religieux. Tu vas à l'église, tu fais ci, tu fais ça, puis voilà, plouf, 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 c'est bon, t'as fait ce que tu devais et tu seras un bon chrétien. Non, mais de la connaissance de Dieu personnelle. Et on voit que Néhémie, il a ça. Tu es grand Seigneur, tu gardes ton alliance. Waouh, après 150 ans, bravo. Ah, j'aimerais bien que ce soit pareil dans ma famille, hein. Bon courage les enfants. Il faut que ça continue. La foi, il faut. C'est trop beau. Connaissance personnelle de Dieu, de sa fidélité, de son alliance. Et vous savez, dans ce domaine, l'image qu'on a de Dieu est capitale. Je le dis souvent, je me répète, l'image qu'on a de Dieu. L'image que Néhémie avait de Dieu, c'était un Dieu fidèle. D'accord, il avait puni, mais il avait prévenu. Et maintenant, il était prêt à pardonner. Il connaissait son Dieu. On va le voir tout à l'heure. Par ailleurs, je trouve que Néhémie, il est sympa, il n'est pas renfermé sur son confort personnel. Lui, il n'est pas rentré à Jérusalem. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais il n'est pas rentré. Ses parents n'ont pas décidé de rentrer, je ne sais pas pourquoi non plus, ils ne le disent pas. Mais son cœur est avec ceux qui sont rentrés. Il pense à leur bien-être. Il dit pas, après tout, ils sont rentrés, hein, ils prennent leurs responsabilités, moi, je suis là, eux, ils sont là-bas, chacun son truc. Il pense à leur bien-être, il garde des liens étroits avec ceux qui voyagent là-bas. Ça a l'air d'être son frère de sang, d'ailleurs, Anani. Il s'informe, il garde un œil sur l'accomplissement des promesses de Dieu dans son pays d'origine. C'est un peu parallèle à notre situation dans le monde d'aujourd'hui. Est-ce qu'on regarde au-delà de notre confort personnel, de notre matérialisme, qui peu à peu nous plonge dans un certain égoïsme spirituel? C'est comme ça. Nous, on a la chance de connaître Dieu, et puis les autres, ils l'ont pas. Ils ont fait leur choix, hein. Il y a des gens autour de nous qui vivent dans le malheur, comme dit la Bible, le déshonneur. Il y a des gens qui vivent dans le malheur, le déshonneur. Il y en a beaucoup. Des chrétiens persécutés. Et puis, des gens qui ont peut-être reconstruit leur temple, leur relation avec Dieu, mais dont les murailles sont écroulées, les portes brûlées. Ils n'ont pas réussi à reconstruire leur vie, malgré le fait qu'ils connaissent le Seigneur. Il faut être réaliste, hein. Il y a une période où on disait, une fois qu'on connaît le Seigneur, tout va tout seul, hein. Toutes choses sont devenues nouvelles. Puis à l'usage, on voit que c'est pas vrai. Les gens ont aussi besoin de reconstruire leurs murailles. Il y a des soucis, il faut savoir le reconnaître. Il faut savoir pleurer là-dessus et dire, il faut que ça change. Il y a aussi ceux dont la vie a été saccagée par l'ennemi. Ils ont besoin de notre aide et de nos encouragements. On va faire comme Néhémie. On va pleurer sur eux, on va prier pour eux. C'est important. Il faut sortir de notre petit confort. Dire, nous, on connaît le Seigneur, tant pis pour les autres. Non, ils ont besoin. Je suis effarée. Ces derniers temps, j'écoutais un peu la radio et puis j'ai regardé un peu les nouvelles sur la BBC. Le nombre d'enfants martyrisés qu'il y a ces derniers temps. On parle beaucoup de la petite Tiphaine, mais j'ai vu un cas ignoble en Angleterre aussi. Je me dis, mais mon Dieu, où est-ce qu'est notre société? Où est-ce qu'on en est arrivé? Et je pense que les institutrices maternelles savent aussi des choses aussi sur la vie de ces enfants qui est détruite à la base. Et les gens ont besoin de reconstruire leur vie. Et il faut qu'on soit là pour les aider à reconstruire leur vie et ne pas les juger. Il ne s'agit pas de leur donner raison, il s'agit de ne pas les juger et d'essayer de les amener à reconstruire leur vie. Un dernier point, son appartenance au peuple de Dieu est plus importante pour lui que celle au peuple perse, qui lui procure pourtant beaucoup de satisfaction. Il devait être bien payé, hein. Il devait être gâté en tant qu'échanson, il devait être super bien habillées. À l'époque, vous savez, c'était les manteaux brodés d'or et tout ça. C'était, ça comptait l'apparence, hein, peut-être encore plus que maintenant. Et il avait de la satisfaction dans son travail, hein. Et pourtant, son appartenance au peuple de Dieu était plus importante. Et ça m'a fait réfléchir. Un chrétien est un citoyen du royaume de Dieu. Pas un royaume comme celui des hommes, mais c'est un royaume fait de valeurs, de lois, de priorités qui sont celles de Jésus-Christ, qui lui est venu pour rétablir son royaume dans nos cœurs, dans nos choix de vie, dans nos problèmes et dans nos attitudes au quotidien. Je crois que ça vaut le coup, comme les jeunes portent ce petit bracelet, hein, de se poser la question « What would Jesus do ?» WWJD. Qu'est-ce que Jésus ferait à ma place? Est-ce qu'on se pose la question au travail quand il y a des conflits, à la maison, avec les enfants, avec le voisinage? Conflit de voisinage, c'est pas très marrant, hein. Est-ce qu'on se pose la question, qu'est-ce que ferait Jésus à ma place? Parce qu'en fait, c'est ce que Néhémie a fait. Seigneur Dieu, qu'est-ce que je vais faire maintenant? J'ai tout mon confort là, je suis bien vu, je suis un beau bonhomme, magnifique, j'ai de la prestance, je suis respecté, etc. L'idée de partir à Jérusalem, c'est pas forcément mon truc. Mais qu'est-ce que tu ferais, toi? Dans nos choix de vie, que ferait Jésus à notre place? Et pas que ferait l'Église? Et pas que ferait le pasteur? Ou Joyce Meyer? Que tout le monde aime bien? Non, que ferait Jésus? Néhémie, il n'est ni scribe, comme Esdras, ni prêtre, comme Zorobabel, ni sacrificateur. Néhémie est un laïc, imaginez. Pire que ça, on soupçonne en plus qu'il était eunuque. Ça veut dire qu'il pouvait pas rentrer dans certaines pièces du temple. Ça devait être obligatoire, je pense. Je vous expliquerai pas pourquoi, mais historiquement. Donc, c'était vraiment un sous-homme, un laïc, employé à la cour du roi. Rien ne le prédisposait à faire quelque chose pour le peuple de Dieu. Mais il a une qualité qui me touche, une qualité que Jésus a manifestée sans cesse, c'est la compassion, et la compassion active. Parce que c'est une chose d'avoir la compassion, de pleurer avec ceux qui pleurent, mais après, qu'est-ce qu'on fait? Une compassion active. On va peut-être s'arrêter là, parce que je sais qu'on a beaucoup de choses encore. Et on va prier que le Seigneur nous donne cette compassion active pour notre entourage. Et pour ceux qui sont dans des difficultés aujourd'hui, je veux redire encore une fois que Dieu reconstruit les vies. Dieu reconstruit les murailles. Et si vous sentez que dans votre vie, il y a des murailles, on en a tous, hein, des portes ou des murailles qui sont un peu abîmées, ou très détruites, ou un peu détruites, je crois qu'il faut vraiment s'adresser au Saint-Esprit, afin qu'il nous guérisse, qu'il nous reconstruise, et que nos émotions, nos pensées, nos sentiments, nos choix, nos volontés, soit vraiment alignée avec celle de Dieu et qu'elle soit reconstruite selon le modèle prévu par Dieu. Seigneur, je te remercie pour cet exemple de Néhémie. Seigneur, donne-nous cette compassion qu'il a eue dans le cœur et donne-nous aussi de reconstruire aussi nos propres murailles avec ton aide et que pendant toute cette série de messages, on puisse, à la fin de cette série peut-être, voir des murs reconstruits, des portes réétablies dans nos vies. Et qu'on soit aussi tourné vers les autres, comme Néhémie, pour bénir et reconstruire ceux qui sont dans le malheur et le déshonneur, comme il l'a dit. Amen.